France Culture, 6h-7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et d'abord cette date donnée par l'Élysée hier soir. L'ancienne ministre et présidente du Parlement européen, Simone Veil, fera son entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet prochain. Rescapée de la Shoah, décédée en juin dernier à 89 ans, elle sera la cinquième femme à reposer dans le monument parisien qui honore les grandes figures de l'histoire de France. L'ONU réclame l'arrêt immédiat des bombardements de l'armée syrienne sur l'enclave rebelle de la Ghouta à l'ouest de Damas. Hier, 77 civils, dont une vingtaine d'enfants, ont été tués. L'offensive aérienne du régime s'intensifie depuis quelques jours dans une région en proie à des pénuries importantes, assiégée depuis plus de 4 ans. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque une possible offensive terrestre dans les jours à venir. Le régime syrien, qui pourrait aussi aller combattre les Turcs au nord d'Alep, dans la région d'Afrine. Ankara y cible les Kurdes depuis 2 mois maintenant. Les forces pro-gouvernementales discuteraient avec les Kurdes en ce moment, selon le média d'État, et pourraient ensuite entrer dans la région d'Afrine. Elles vont se joindre à la résistance contre l'agression turque, précise l'agence de presse Sana. Elle était la première djihadiste française à être arrêtée et jugée en Irak et elle s'en sort plutôt bien. La jeune femme de 27 ans, prénommée Mélina, n'a pas été condamnée pour terrorisme, comme ont pu l'être d'autres étrangères qui écopent de la peine de mort. Après avoir fait 7 mois de prison, elle sera expulsée vers la France dans les prochains jours. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, zoom sur une enquête de l'association Génération Future qui révèle qu'il y a beaucoup trop de pesticides dans ce que l'on consomme. Des traces de pesticides sont par exemple présentes à plus de 70% dans les fruits que l'on consomme, les fruits étudiés par cette association. Et puis la maire de Paris dit avoir entendu la famille de Michel Déon. L'académicien français mort en Irlande en décembre dernier ne pouvait pas être enterré dans la capitale puisqu'il n'y vivait pas, c'est la règle de droit. Un texte de soutien a été signé par une centaine de personnalités du monde littéraire et les services municipaux ont trouvé finalement une sépulture parisienne pour ce grand écrivain. C'est ce qu'annonçait dans la foulée hier la maire Anne Hidalgo.
Qu'est-ce qui pousse certains à commettre des actes monstrueux ? Le psychiatre Daniel Zaguri a venu sur France Culture au fil de 5 entretiens.
Je n'ai jamais rencontré de tueur en série qui était capable d'éprouver du ressentiment, de la rancœur, voire de la haine à l'égard de l'image maternelle.
Spécialiste de psychopathologie, expert auprès de la Cour d'appel de Paris, il a été amené à écouter et décrypter des tueurs en série, plus récemment des terroristes, côtoyer le plus effroyable de l'humanité, chercher à comprendre l'innommable. Daniel Zaguri, Les barbares ordinaires, a venu cette semaine à 20h et sur franceculture.fr.
À 6h03 sur France Culture, nous accueillons, comme tous les matins, Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour, nous sommes le mardi 20 février. Merci de votre fidélité. Merci de vous réveiller avec le magazine de l'actualité culturelle. Tous les jours de 6h à 6h30 à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible entre autres sur iTunes et franceculture.fr. À la réalisation Vincent Abouchard, à la coordination Bilal Bouchareb et Anaïs Isbert, et ce matin à la technique Claire Levasseur. Monster, 20th Century Boys, Pluto, Billy Bat. Alors, c'est simple, si ces noms ne vous disent rien, c'est que vous êtes passé à côté d'un des plus grands auteurs de bande dessinée japonaise, Naoki Urasawa. Au Japon, Naoki Urasawa est une superstar. La vente cumulée de ses séries de bande dessinée dépasse dans le monde des 120 millions d'exemplaires. Adulé comme une superstar au Japon, le dessinateur japonais ressemble effectivement à une rockstar, quinquagénaire au visage juvénile, musicien à ses heures perdues, humoriste à la radio quand il peut. On a du mal, à la première rencontre, à se dire qu'on a affaire à un feuilletoniste exceptionnel, un travailleur acharné, un virtuose du dessin doublé d'un scénariste inspiré qui a l'art de captiver le lecteur avec ses récits complexes à tiroir. Polar et science-fiction auscultant les recoins sombres de la psychologie humaine, éclairant illustrant les paradoxes cruels de notre présent déstructuré, avec des héros malmenés par le passage à l'âge adulte, et aussi malmenés par l'histoire en cours et ses crises complexes. L'œuvre d'Urozawa, qui est habitée par l'obsession d'un mal qui change de visage, qui change de nom, qui change de nature, d'un mal sans frontières, ou encore, c'est aussi une réflexion sur la crainte de la résurgence des dictatures sanguinaires, le plus grand, bref, le plus contemporain des auteurs de bande dessinée, expose pour la première fois ses originaux en France. Après Angoulême, Paris. Jusqu'au 31 mars, l'expo « L'art » de Naoki Urozawa se tient à l'espace Paris Rendez-vous, dans le 4e arrondissement. Naomi Urozawa est sur France Culture, invitée exceptionnelle du Réveil culturel, avec des traductions simultanées assurées par Shoko Takahashi.
Le Réveil culturel. Mardi, expo.
En France, il a vendu plus de 2 millions de bandes dessinées. Pourtant, son univers est sombre et ses polars labyrinthiques ne sont pas joyeux. Le monde court à sa perte, c'est un fait, mais on peut toujours le prendre à contre-courant, semble nous dire ses personnages de papier. Bonjour Naoki Urozawa.
Bonjour.
Alors, première question, vous qui êtes toujours souriant, vos histoires le sont beaucoup moins. Est-ce que on peut dire que vos personnages vous ressemblent ?
Alors, on dit souvent que mes œuvres sont assez sombres, mais je ne pense pas que mes mangas soient sombres. Est-ce que vous pensez vraiment comme ça?
Je
me considère comme un auteur de comédie.
Des comédies qui se passent dans un monde qui ne prêterait pas à sourire, qui est vraiment menacé par des dangers multiples.
Pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le drame humain. Et quand on raconte des drames humains, il y a forcément des moments qui nous font sourire.
Et
même si les personnages sont acculés, ils peuvent avoir faim.
Et
donc voilà, c'est des moments de cocasse humain que j'aimerais bien montrer.
Qu'est-ce que vous mettez dans votre bande dessinée, Naoki Urozawa? Est-ce que vous mettez vos peurs, vos espoirs d'un monde meilleur, ou vous jouez avec les deux?
C'est important de montrer l'espoir dans mes œuvres.
Dans
mon cas, peut-être le rayon de la rueur de l'espoir est extrêmement délicat. C'est pour ça que ça donne l'impression que les œuvres sont sombres.
Je m'intéresse beaucoup
à montrer la vie quotidienne. J'aimerais bien montrer évidemment le côté chaleureux de notre vie, mais c'est vrai que j'ai un côté très ironique, donc évidemment ce côté ironique ressort malgré moi.
On va essayer de savoir la part de Naoki Urozawa dans ses personnages de bande dessinée. Quel est, de tous les personnages que vous avez dessinés, créés, Naoki Urozawa, celui qui vous ressemble le plus, par exemple?
Alors, la plupart de mes héros hésitent beaucoup. Et quand je vois ces héros donc dans des scènes difficiles et qu'ils sont très hésitants, oui, je m'identifie complètement.
Par exemple, on va prendre Monster.
Peut-être Dr. Tenma, qui est donc le héros de l'histoire, est peut-être beaucoup trop sérieux par rapport à ma personnalité.
Et sinon, il y a un garçon comme Dita, et donc,
je pense que ma personnalité est reflétée plutôt dans ce genre de personnage, donc des enfants.
Est-ce qu'on peut parler maintenant de Billy Bat, par exemple?
Dans Billy Bat, il y a beaucoup de mangaka.
Ces mangaka qui tâtonnent, qui souffrent,
qui ont beaucoup de la peine pour dessiner. C'est complètement moi-même.
Est-ce que vous avez l'impression d'être un metteur en scène en plus de votre travail de dessinateur ou parfois même de dessinateur et de scénariste? Parce que tous vos personnages, s'ils plaisent tant à tant de monde, c'est parce que vous réussissez à dessiner des expressions très subtiles sur le doute, sur la peur, sur les hésitations. On a l'impression que c'est vous-même qui jouez ces rôles avant de les coucher sur papier.
まず漫画というのはすべて、例えば映画で言えばプロデューサー、監督、
美術。Dans le manga, c'est exactement comme au cinéma. Il y a les producteurs, les réalisateurs, des décorateurs.
出演者全部やらなきゃ
いけない。Et des acteurs. En fait, le mangaka doit tenir tous ses rôles.
ですので、まずは打ち合わせの段階で、
donc, au moment de la réunion, préparatoire, il y a le producteur, qui parle du projet.
ディレクターにバトンタッチするんですけども、プロデューサーが言ったことを、Ensuite,
c'est le réalisateur qui doit créer vraiment l'œuvre. Donc, après la réunion dans laquelle le producteur a dit tout ce qu'il voulait produire, le réalisateur doit maintenant mettre en œuvre. Moi-même, je joue le rôle de producteur et je joue le rôle de réalisateur aussi. Donc, tout est interprété par moi-même. Et donc, je dois aussi tenir le rôle des acteurs aussi. C'est-à-dire que quand je montre, quand je dessine les personnages dans chaque case, je dois faire jouer ces personnages, donc c'est moi-même qui joue.
Face à un miroir, pour avoir les expressions.
Oui, oui,
bien sûr, il y a toujours un miroir sur mon bureau, oui, bien sûr. Et donc dans la tête, il y a donc la discussion entre le réalisateur et les acteurs, mais en fait, tous les deux sont moi-même.
そして最後ペンを持った
絵描きが
それを書き留めるんですけども。
Dessine, donc voilà, il faut avoir un dessinateur qui prend la plume, et c'est moi-même.
今度また監督からノーが出るわけです。
Alors quand je dessine, le réalisateur parfois me demande des modifications, et c'est encore une fois le réalisateur et moi-même aussi.
Donc vous êtes seul, mais vous travaillez avec plusieurs voix dans votre tête.
C'est ça. Oui, oui, je travaille toujours comme ça. Et tous ces gens-là, tous ces acteurs-là se disputent entre eux dans ma tête.
Est-ce que vous êtes schizophrène du coup ?
Oui, exactement.
Naoki Urozawa, vous nous expliquez comment vous imaginez donc une histoire, mais quand vous vous mettez au dessin, est-ce que vous avez tout en tête, c'est-à-dire le début et la fin de l'histoire, tous les personnages, tous les décors, le découpage, la manière de présenter l'histoire ?
いつでも向かう方向は定まっているんですけども。
Je sais vers où je dois me diriger。Quand je commence un projet, mais c'est vrai qu'il y a de nombreux personnages dans mes œuvres, et tous ces personnages se mettent en mouvement en même temps. Et donc l'histoire n'avance pas comme je souhaite. Et parce qu'il y a des personnages trop capricieux.
でそれを統率している今度監督、
プロデューサーが今度頭を抱えます。Et donc le réalisateur ou le producteur, donc qui sont moi-même, oui, ils ont beaucoup de mal à diriger ces acteurs-là.
Est-ce que ces personnages vous poursuivent dans la vie d'après l'atelier ?
Eh bien, ほとんど彼らは僕にとっては他人というか、
alors tous ces personnages-là, pour moi, sont vraiment des gens qui, enfin, je pense pas que c'est moi-même qui les ai créés, il existe déjà.
話が行き詰まった時にあるキャラクターがいいところポジショニングにそれが立っていて話を解決してくれる時にはもう抱きしめたくなりますね。
Parfois, un de ces personnages m'aide pour créer l'histoire. Donc là, à ce moment-là, ça me donne très envie de le serrer dans mes bras.
Alors, on va continuer cette interview dans cette direction. Vous arrive-t-il d'être déçu par vos propres personnages ? Vous arrive-t-il de tomber amoureux d'un de vos personnages ?
Il y a beaucoup de personnages qui m'ont déçu. Parce qu'il joue trop mal.
Et
même s'il s'entraîne beaucoup, ils n'arrivent pas à faire des
progrès. Mais
tout à coup, ils peuvent faire des progrès, mais tout à coup, par une occasion. Et là, à ce moment-là, je les félicite.
Vous êtes leur créateur, mais est-ce que vous vous considérez comme un dieu, Naoki Urozawa?
Alors, en fait, j'organise une sorte d'audition. Parmi de nombreux acteurs, je dois sélectionner certains.
で、それを慎重にやらないと、
下手な役者を選ぶとその後苦労することになるんですね。Et si on choisit des mauvais acteurs, après, ça va être compliqué.
Quand vous dites je dois choisir, c'est-à-dire vous dessinez plein de personnages et après vous faites le choix.
C'est ça. Par exemple, quand il faut choisir un acteur qui joue le rôle d'un criminel.
それが怖い人相の悪いやつとかが何人かいるんですけどもそのうちこの彼らではないなと思ってるうちにものすごくニコニコした男がオーディションに現れまして
mais tout à coup, donc, un autre acteur qui a un grand sourire peut arriver.
でその彼にのニコニコした顔を見てるとこれはドラマを面白くしてくれるなっていうのが分かる。
Cet acteur qui vient à l'audition et qui est très différent des autres acteurs qui font peur. Et là, c'est vrai que ça me donne des idées et je trouve que oui, parfois, pour un criminel, il faut prendre un acteur donc qui a un grand sourire.
Il parle de comédien, mais en réalité, ce sont ses personnages de bande dessinée. Nous sommes avec le grand mangaka Naoki Urasawa ce matin sur France Culture.France Culture, le réveil culturel avec Naoki Urasawa, un des plus grands mangaka qui expose ses dessins en ce moment des originaux. C'est une exposition qui a été organisée pour le Festival d'Angoulême et pour la première fois, elle fait le déplacement jusqu'à Paris. C'est en ce moment et jusqu'au 31 mars, rue de Rivoli à l'espace Paris. Rendez-vous Naoki Urasawa quand il n'est pas dessinateur, quand il ne fait pas de la radio, il chante et on vient d'écouter un extrait d'une de vos chansons enregistrées il y a 10 ans. Naoki Urasawa, musicien, c'est une manière à vous d'échapper un peu à l'atelier, de rencontrer du monde, du public, des musiciens, ou c'est une passion qui a sa place exactement comme le dessin?
À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à dessiner des mangas. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare.
Fait
des mangas et de temps en temps jouer de la guitare, c'est quelque chose que je fais en fait depuis mon enfance.
Et
en fait, pendant que je travaille pour les mangas, tout à coup des idées de musique me reviennent. Donc du coup, j'arrête mes mains et je prends ma guitare et je compose. Et une fois que la chanson est composée, je reprends ma plume.
もちろんライブという場に行くと、直接、
et de temps en temps, donc, j'organise des concerts où je peux rencontrer le public, donc, des gens qui viennent écouter la musique ou qui aiment mes mangas, et ce sont des moments très précieux qui sont très importants pour moi.
Naoki Urasawa, on vous connaît pour vos séries qui ont un succès mondial, peut-être parce que justement vous êtes influencé par plusieurs cultures, c'est-à-dire aussi bien la culture japonaise que la culture occidentale. Je voudrais vous faire entendre Stéphane Beaujean, que vous connaissez, le directeur du festival d'Angoulême, qui a passé toute l'année dernière à essayer d'avoir le maximum de vos originaux. Il a réussi quand même à monter cette exposition. Écoutez-le parler de vous.
Alors, il y a l'expo Naoki Urasawa, qui est l'équivalent, on va dire, du Bilal européen. C'est la grande star de la bande dessinée adulte depuis des années. Il exerce dans un registre plutôt proche du polar, et, entre Hitchcock et De Palma, j'ai envie de dire, pour ceux qui cherchent des références. Des trucs très angoissants, suspendus entre le Japon et l'Europe. Il a des thèmes très forts, comme la question de l'identité du mal. Il est hanté par des motifs très, très étranges, l'absence de visage, la résurgence des murs, des dictatures. Il a des figures de sauveurs très personnelles qui sont très belles. Il parle souvent de l'art comme d'un outil qui permet peut-être la rédemption ou en tout cas de maintenir le monde en bon fonctionnement. C'est quelqu'un qui est vraiment très très intéressant, qui fait des séries fleuves souvent d'une vingtaine de volumes qui sont palpitantes, on n'arrive pas à décrocher, c'est du page-turner très très bien monté.
Naoki Urasawa, alors vous avez entendu Stéphane Beaujean parler de références, il vous considère comme un Bilal, le Bilal du Japon, il cite Hitchcock et De Palma. J'ai lu une de vos interviews pendant le festival d'Angoulême accordé à Frédéric Potet du Monde, vous l'avez complètement désarçonné parce que tout le monde avait préparé ses questions sur le suspense, Hitchcock, De Palma, et vous lui sortez que des références françaises, le trou de Jacques Becker, que pensez-vous de tout ce qu'on dit de vous ici?
En fait,
j'ai parlé d'un film français que j'ai vu à l'âge de 8 ans.
Et
pendant très longtemps, donc, je me souvenais vraiment de ce film.
Et
j'avais procuré le DVD, et avant de venir en France, j'ai pris ce DVD que j'ai gardé pendant longtemps, et j'ai revu ce film. Et donc ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu, et en regardant, j'ai vraiment constaté que mon souvenir était exactement l'image de la scène finale du film Trop pendant donc 50 ans
dans ma tête.
Et donc il n'y a pas longtemps j'ai revu ce film avec un regard d'adulte et maintenant donc je voudrais presque féliciter donc moi qui avais 8 ans qui avait finalement bien vu ce film. Et je me suis rendu compte que l'impact, le choc que j'ai eu à l'âge de 8 ans quand j'ai découvert ce film m'a énormément influencé pour ma création.
Pour vous, s'il fallait parler de vos influences, je suppose que vous allez commencer par nous parler de Tezuka. Forcément, c'est Tezuka qui vous a marqué quand vous étiez enfant et pourtant on parle beaucoup de références cinématographiques. S'il fallait répertorier très vite tous les gens qui ont compté pour vous, suffisamment compté pour vous, Naoki Urasawa, pour qu'il laisse des traces dans votre travail, dans votre trait.
Quand
j'ai découvert la guitare à l'âge de 13 ans, c'est presque donc en même temps j'ai découvert le manga Phoenix de Osamu Tezuka. Et j'étais très étonnée de savoir qu'il y avait un manga qui était aussi extraordinaire et qu'il existait bien un auteur aussi extraordinaire. Donc c'était une sensation incroyable. Depuis, je considère Osamu Tezuka comme l'étoile polaire. Et donc pour moi, c'est un grand repère de ma vie.
Et pour le cinéma ?
Bon, évidemment, le cinéma de Hitchcock m'a beaucoup influencé. C'est qu'il fait tout pour donner le plaisir aux spectateurs. Et il lui fait tout pour ne pas ennuyer les spectateurs.
Qui
font plaisir au public, il insère ça, mais tout de suite dans le cinéma. Et sa capacité est incroyable.
Vous avez beaucoup lu la bande dessinée dite franco-belge. Comment vous avez découvert ça? Parce que vous dites de très belles choses sur Jean Giraud, sur Moebius, Naoki Urasawa.
À l'âge de 18 ans, j'ai trouvé pour la première fois des dessins de Moebius dans un magazine.
C'était
vraiment des dessins de petite taille.
Mais
quand j'ai vu ces illustrations, je me suis dit que c'est vraiment ces dessins-là que j'aime le plus. Et donc, ça m'a donné vraiment envie de procurer les dessins, ces dessins en grande taille. J'ai cherché partout. Et quand j'ai vu ces dessins en grande taille, c'était quelque chose d'extraordinaire avec des lignes fines, incroyables. Donc, depuis, j'ai vraiment copié ces lignes. Et du coup, j'ai fait tellement de progrès que maintenant, je peux tout à fait faire les lignes à la Moebius.
Monster, 20th Century Boys, plutôt. Billy Bat, c'est plutôt un registre qui tourne autour du polar, de la science-fiction, avec des tensions. Ce sont des séries. Vous avez décidé, Naoki Urasawa, de changer de registre et d'essayer la comédie, l'humour. Les éditions Futuropolis ont profité du festival d'Angoulême pour annoncer la publication avant la fin de l'année de votre dernier livre, Mujirushi. Il paraît que c'est très drôle. C'est la première fois que vous faites quelque chose de tout à fait très drôle. On a dévoilé quelques dessins, quelques planches à Angoulême. Et vous avez un autre projet, celui de faire un livre sur le Louvre à Paris, dans la collection des auteurs de bande dessinée qui prennent leur quartier dans ce grand musée parisien et qui après deux mois, reviennent avec un compte-rendu en forme de bande dessinée.
深刻だとかダークだとかいう以前に私の作品はなぜか、あの、なんか、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ fait, en France, tous mes titres ne sont pas traduits. Ah. Au Japon, en fait, il y a eu la série qui s'appelle Yavara, qui a cartonné et qui a beaucoup d'humour.
Donc,
au Japon, beaucoup pensent que je suis l'auteur de Yavara, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui fait des mangas humoristiques presque.
Ah. それで今回はルーブルからの依頼で、
et là, cette fois-ci,
ルーブルが第9の芸術として漫画を認
めてくれたということで、ma dernière série fait partie donc de la collection de Louvre. Le Louvre m'a proposé de faire un album dans le cadre de la collection de Louvre parce que le Louvre considère la bande dessinée comme 9e art. Et c'est vrai que les auteurs quand ils reçoivent la commande de Louvre, voilà, parfois on a un peu peur de prestige dans tel musée. Mais je pense que les mangas, c'est quelque chose de beaucoup plus libre. Et c'est pour ça que j'ai pris la liberté de faire un manga avec beaucoup d'humeur, malgré le fait que ce soit pour le musée de l'œuvre. Et en réfléchissant à quel type d'album j'allais faire, j'ai eu tout à coup l'idée d'utiliser le personnage qui était très populaire au Japon dans les années 60, qui s'appelle Iyami. Alors, c'est un personnage de manga et qui prétend connaître bien la France, qui prétend être venu pour la, plein de fois en France. Et quelqu'un de très snob
et un peu mythomane.
C'est ça. Et donc c'est un personnage. Donc Iyami est un personnage créé par le mangaka Fujio Akatsuka dans les années 60.
France, Iyami a
活躍するという話を思いついて、それは j'ai eu l'idée de faire le manga dans lequel donc Iyami va au Louvre en France et j'ai trouvé ça extraordinaire comme idée.
Allez, vous allez représenter quelques œuvres du Louvre dans votre bande dessinée.
Alors, évidemment, j'ai représenté quelques tableaux du Louvre. Et j'ai parfaitement copié ces tableaux. Et on ne sait toujours pas donc, si c'est une vraie histoire ou non, parce que le personnage est Iyami, qui est louche.
Merci beaucoup, Naoki Uruzawa. Merci beaucoup, Shoko Takahashi, pour la traduction simultanée. Et je rappelle que vous avez jusqu'au 31 mars pour voir l'exposition des originaux de ce grand auteur de bande dessinée japonais. C'est à Paris, 29 rue de Rivoli. Eh ben, bonne journée à vous, puisque vous restez encore à Paris pour votre projet autour du Louvre. Demain, Arnaud Desplechin et Michel Simons viendront faire sonner le réveil culturel sur France Culture. Bonne journée à vous tous et à demain. Vous êtes sur France Culture dans un instant, les informations de 6h30, tout de suite après le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tout nouveau, Hasta Dente, premier podcast natif de fiction de France Culture. Polar, loufoque et irrévérencieux, à la poursuite d'un tueur pastafarien par un duo déjanté, une série policière en 11 épisodes de 10 minutes. En son immersif, une expérience d'écoute inédite.
Il était indispensable qu'on soit deux pour cette investigation de haut vol.
Découvrez Hasta Dente en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr et les plateformes de téléchargement. En partenariat avec la SACD.
Vous êtes sur France Culture. 6h30, les informations par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour à tous. Des traces de pesticides dans 70% des fruits que l'on consomme, alerte de l'association Génération Future dans ce journal. Elle se base sur les relevés de la direction des fraudes. Nous reviendrons ensuite sur le parcours d'une jeune femme accusée de terrorisme en France. Elle a été arrêtée en Irak et bientôt expulsée. À suivre aussi le rapport alarmant de l'UNICEF. Un enfant né au Pakistan, dit-il, a 50 fois plus de risques de mourir le premier mois qu'un enfant né en Norvège. Et puis Mahmoud Abbas s'exprimera devant l'ONU cet après-midi. Le président de l'autorité palestinienne aura bien du mal à être entendu face au droit de veto des Américains, vous le comprendrez. Beaucoup trop de pesticides donc dans nos fruits et nos légumes. C'est ce qui ressort d'une enquête inédite dévoilée ce matin par Génération Future. L'association s'est basée sur les données officielles de la Direction Générale de la Répression des Fraudes de 2012 à 2016. Résultat, on retrouve des résidus de pesticides dans plus de 72% des fruits étudiés et dans plus de 40% des légumes non bio. Rosalie Lafarge.
Il y en a quasiment partout, en plus ou moins grande quantité. Parmi les fruits les plus mauvais élèves, ce sont les raisins, les cerises, les fraises et les agrumes. On retrouve des résidus de pesticides dans plus de 80% des échantillons analysés. Du côté des légumes, la palme revient aux céleri, branches et raves, aux herbes fraîches, aux endives et aux laitues. François Veyrette est le directeur de l'association Génération Future.
La présence de résidus ubiquitaires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de fruits et légumes qui en contiennent presque tout le temps. Souvent, en plus, c'est pas un seul résidu que vous avez, mais 2, 3, 4, ça peut aller jusqu'à 15, 16 ou au-delà. Dans la journée, ça veut dire que les gens vont être exposés à plusieurs dizaines de résidus différents. En plus, on sait qu'il y a beaucoup de ces résidus pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc ces chiffres sont réellement inquiétants et ça montre clairement au gouvernement combien l'action publique est urgente.
Le gouvernement qui est en train de finaliser un nouveau plan d'action pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques dans l'agriculture, il devrait être dévoilé à la fin du mois de mars. Génération Future espère y trouver de vraies mesures pour faire évoluer les systèmes de production agricole et les rendre moins dépendants aux pesticides.
Le fonctionnement de Fessenheim est perturbé depuis hier. Une partie des salariés de la centrale nucléaire EDF s'est mise en grève à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Ils demandent une amélioration des mesures d'accompagnement pour les 750 salariés touchés par la fermeture du site d'ici 2019. Une nouvelle réunion avec EDF est prévue aujourd'hui à Paris. La chaîne TMC a diffusé hier de nouveaux enregistrements du patron des Républicains. Laurent Wauquiez, tout aussi décapant que la veille. Il y étrille Valérie Pécresse et Alain Juppé, tacle au passage le MEDEF, la CGPME et les députés d'En Marche qu'il qualifie de guignols. Des propos enregistrés à son insu toujours face à des étudiants lyonnais. Un montage vicié qui ne respecte pas la déontologie a réagi hier l'une des porte-paroles du parti Les Républicains. Une djihadiste française, bientôt de retour sur le territoire. Âgée de 27 ans, elle avait rejoint l'Irak avec son compagnon et ses trois enfants en octobre 2015. Elle a été arrêtée à Mossoul, placée en détention pendant 7 mois, puis condamnée, mais pas pour terrorisme, Florence Turm.
7 mois de prison pour entrée illégale sur le territoire irakien, Mélina Boujedir a accueilli le verdict avec le sourire. La peine couvre sa détention et la justice irakienne n'a pas retenu contre elle une accusation de terrorisme, alors que la veille, une ressortissante turque avait été condamnée à mort par cette même cour pénale, tout comme le mois dernier une djihadiste allemande pour appartenance et soutien à l'organisation État islamique. Après avoir obtenu en décembre le rapatriement de ses trois plus grands enfants en France, les avocats de Mélina Boujedir ont adressé adressé le mois dernier une lettre au président Emmanuel Macron, lui demandant une mobilisation sans faille si une peine capitale devait être prononcée à l'encontre de la jeune femme. Au moins 2 autres Françaises sont actuellement détenues en Irak pour des faits similaires et elles réclament le droit de pouvoir être jugées en France. Mélina Boujédir, elle a été placée dans un centre de rétention dans l'attente de son transfert vers Paris, qui sera organisé sous escorte de membres des forces spéciales. Dès son arrivée sur le sol français, la jeune femme sera placée en garde à vue. Elle fait l'objet d'un mandat de recherche dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en août 2016 pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Son compagnon, déjà condamné en France pour son implication dans le groupe radical islamiste Force Analisa, était également recherché, mais il aurait trouvé la mort dans les bombardements irakiens lors de la bataille de Mossoul.
C'est une tradition annuelle et une triste réalité. Le rapport de l'UNICEF, publié ce mardi, il s'intéresse cette année à la mortalité néonatale. On y apprend que chaque année, 2,6 millions de nouveau-nés dans le monde ne survivent pas le premier mois, Nadine Epstein.
Près de 7000 nouveau-nés meurent chaque année dans le monde. Les principales causes de la mortalité néonatale sont la prématurité, les infections comme les méningites, les pneumonies ou les septicémies. Annuellement, 15 millions de bébés naissent avant terme, avant 37 semaines de gestation. Ce sont les bébés nés au Japon, en Islande et à Singapour qui ont le plus de chances de survie. Dans ces pays, seul un bébé sur 1000 décède dans les 28 jours qui suivent sa naissance, soit un taux de mortalité très faible dû à des systèmes et des professionnels de santé hautement qualifiés et de bonnes conditions d'hygiène et d'assainissement. À l'autre extrémité du classement, le Pakistan, la République centrafricaine et l'Afghanistan. Le Pakistan est le lieu de naissance le plus risqué. Sur 1000 bébés nés en 2016, 46 sont morts avant la fin de leur premier mois d'existence, soit près d'un nouveau-né sur 20. Ainsi, un enfant né au Pakistan a près de 50 fois plus de risques de périr au cours de son premier mois qu'un nouveau-né des 3 pays précités. En moyenne, les pays à revenus élevés présentent un taux de mortalité néonatale de 3 pour 1000 contre 27 pour 1000 dans les pays à revenus faibles. Chaque année, près de 2 600 000 bébés meurent avant l'âge d'un mois. 1 million d'entre eux rendent leur dernier souffle le jour même de leur naissance, à quoi s'ajoutent plus de 2,5 millions d'enfants morts-nés.
Des enfants qui meurent en ce moment aussi sur le terrain syrien. Une vingtaine d'enfants hier encore. Au total, 77 civils ont été tués dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. Elle est bombardée sans relâche par le régime syrien. L'opposition en exil dénonce une guerre d'extermination. Mahmoud Abbas est attendu devant le Conseil de sécurité de l'ONU cet après-midi. Le président de l'autorité palestinienne vient y plaider une approche internationale du processus de paix et un statut de membre à part entière de la Palestine aux Nations Unies. Mais les positions de chacun depuis la déclaration américaine sur Jérusalem sont connues et Mahmoud Abbas a peu de chances d'être entendu, Étienne Monin.
S'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à Mahmoud Abbas, c'est sa détermination dans la recherche d'un passage pour tenter de quitter l'impasse dans laquelle les Américains ont vissé l'autorité palestinienne en décembre dernier. Ce qu'il vient plaider devant le Conseil de sécurité, c'est une formule qui lui permettrait de se remettre sur les rails du processus de paix. Les Palestiniens ont violemment rejeté la position américaine jugée partiale et défavorable. Il plaide donc pour un cadre international qui leur permettrait d'espérer un pied d'égalité. Mahmoud Abbas a mis toute son énergie dans cette stratégie, mais il a reçu tout au plus un accueil poli de l'Union européenne le mois dernier et le Conseil de sécurité est verrouillé par le droit de veto que les Américains peuvent utiliser pour défendre leurs intérêts ou ceux des Israéliens. Le message de grands pays européens, c'est de laisser maintenant les États-Unis présenter leur plan de paix. Même le roi de Jordanie a plaidé pour le bénéfice du doute en faveur des Américains, mais la situation est alarmante à Gaza. L'enclave avait cru en une réconciliation palestinienne qui, au fil des mois, comme le plan de paix américain ne suscite plus beaucoup d'espoir.
Vers un nouveau procès pour l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, un tribunal demande qu'il soit à nouveau jugé pour le meurtre de 6 paysans en 92. Âgé de 79 ans et condamné pour crimes contre l'humanité et corruption, Fujimori avait été gracié en fin d'année dernière pour des raisons de santé. Nous revenons en France pour évoquer maintenant une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ouvrir les bibliothèques le soir et le dimanche, est-ce pour autant souhaitable partout ? Aujourd'hui, l'écrivain Éric Orsenna remet au président un rapport intitulé « Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain ». L'académicien a fait un tour de France pendant 3 mois, il dévoilera donc ses conclusions cet après-midi. Mais déjà la sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, Sophie Sylvie Robert, avait rédigé un rapport sur le sujet, c'était en 2015. Elle doute de l'intérêt d'ouvrir toutes les bibliothèques le soir et le dimanche.
c'est bien d'ouvrir plus. Et aujourd'hui, je pense vraiment, sincèrement, qu'il faut ouvrir plus nos bibliothèques, parce que nous sommes une moyenne trop faible, mais il faut ouvrir mieux, c'est-à-dire que par rapport à des territoires, il y a des territoires où l'ouverture le dimanche, par exemple, ou le soir, peut s'avérer pertinent, mais il y a d'autres territoires où ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il faut avoir une vision extrêmement, décentralisatrice de la question pour convenir qu'il y a certains territoires qui vivent à des rythmes qui demandent à ce qu'on regarde si l'ouverture le dimanche, le soir, le midi ou autre a vraiment un sens.
La sénatrice Sylvie Robert au micro de Valentine Joubin. Son nom est sans doute dans toutes les bibliothèques de France. Simone Veil, décédée en juin dernier, l'académicienne et ancienne ministre, entrera au Panthéon le 1er juillet prochain avec son époux. Annonce faite hier soir par l'Élysée. Le temps de ce mardi à présent, pluvieux dans l'ensemble avec des neiges abondantes sur les Pyrénées aujourd'hui. Seule une bande le long des frontières de l'Est sera épargnée et ensoleillée. Éclaircie également à la mi-journée sur la Bretagne. Les températures comptez ce matin 1 degré à Strasbourg, 2 à Lyon. Sur le centre et l'ouest, il fera un peu plus chaud avec 3 degrés à Lille, 5 à Paris, 8 à Clermont et jusqu'à 11 à Perpignan. Il est 6h40, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour
ce
à
matin,
tous.
Ce matin, Jacques, vous vous intéressez aux fake news, aux faits alternatifs.
Eh oui, quand on voit que ça devient un mode de communication politique, on peut légitimement s'inquiéter. Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Les fake news et leurs faits alternatifs sont la conséquence d'un abandon de la rationalité, estime le philosophe Pascal Engel. Le spécialiste de philosophie de l'esprit et de la connaissance commence par recenser, dans les pages idées de Libération, les différents biais cognitifs et autres paralogismes qui faussent les raisonnements. Le recours à l'argument d'autorité, l'appel à l'opinion, au peuple, le transfert d'expertise, X est expert sur Y mais s'autorise à se prononcer sur Z, les procès d'intention, le sophisme génétique, les idées de X sont fausses parce qu'elles ont telle cause ou telle origine, le biais de confirmation, privilégier les données qui confirment les hypothèses en accord avec nos idées. En s'appuyant sur les données des sciences cognitives, les psychologues ont établi qu'il y a deux systèmes dans notre cerveau, l'un plus ancien en termes d'évolution, traitant les informations automatiquement et soumis aux émotions, l'autre plus récent, plus lent et plus analytique. Le cerveau rapide prend le plus souvent le pas sur le cerveau lent. Si nous sommes massivement irrationnels, alors qu'y a-t-il d'étonnant à ce que nous avalions tant de bobards ? Pour le spécialiste de pragmatique du langage et de logique, la situation est grave, mais pas désespérée. Ce qui gouverne nos raisonnements n'est pas seulement l'objectif de gagner dans l'art d'avoir toujours raison et de persuader, car nos processus cognitifs n'ont évolué que parce qu'ils sont globalement fiables, sans quoi notre espèce n'aurait pas survécu. Et la raison continue donc d'avoir un pouvoir régulateur. Swift disait que l'homme n'est pas rationnel, mais capable de raison, conclut Pascal Engel. Pas besoin de plus pour reprendre la main. C'est le parti que prennent résolument Mathias Girel et Michel Leduc dans la dernière livraison de la revue Raison Présente, consacrée à la culture de l'ignorance. Il s'agit en l'occurrence de l'ignorance stratégiquement entretenu par des lobbies industriels qui ont intérêt à cultiver la confusion sur des vérités dérangeantes, la nocivité du tabac, de l'amiante ou des perturbateurs endocriniens, les conséquences du réchauffement climatique ou de la contamination nucléaire. C'est ainsi que certaines études tabacologiques relevant de la recherche leurre s'emploient à égarer l'opinion vers des causes aussi improbables que la calvitie ou le fait d'être né au mois de mars. Les marchands de doute vont même jusqu'à orchestrer et financer en conséquence un véritable harcèlement des scientifiques pour l'ouverture de l'ensemble de leurs données, de manière à en extraire des morceaux choisis afin de bâtir une alternative d'apparence scientifique à leurs recherches. C'est l'injonction de transparence à l'assaut de la vérité scientifique qui, elle, se construit dans le temps long et le respect des protocoles. Et c'est ainsi que la rationalité se dilue dans des croyances présentées comme des alternatives aux vérités scientifiques. scientifique. Le problème des fake news n'est pas vraiment nouveau, donc c'est leur multiplication dans la sphère médiatique et leur usage de plus en plus décomplexé dans la politique qui relance la question révélatrice de l'état de nos démocraties. Mais, estime Mathias Girel, ignorance stratégique et post-vérité auraient au moins une vertu, nous faire prendre conscience des angles morts à la fois de nos savoirs et de nos institutions. Pour lutter contre l'apathie qui pourrait nous saisir individuellement et collectivement, et ça ne concerne pas seulement le citoyen. Certains juges devraient apparemment en tirer la leçon pour eux-mêmes. Mediapart publie l'enquête d'Eliane Patriarca sur le non-lieu prévu dans l'affaire de l'amiante. 22 ans après les premières plaintes déposées en France, les juges d'instruction s'apprêtent en effet à classer la vingtaine d'enquêtes ouvertes dans l'affaire de ce minéral tueur, comme si cette catastrophe industrielle n'avait pas de responsable, comme si ce scandale sanitaire et industriel sans équivalent, près de 3000 morts en France chaque année, ne méritait pas un procès pénal. En cause notamment le médecin du travail de l'entreprise Ferrodo Valeo, réputé meilleur expert de l'amiante durant des années, mais dont les documents rassemblés par l'instruction révèlent une volonté constante de dissimuler la gravité des faits. Une proximité du médecin, Claude Raffaelli, avec les industriels de l'amiante est attestée par sa qualité de membre du comité permanent amiante, le CPA, une structure de lobbying et faunée des industriels qui a anesthésié l'État et joué un rôle non négligeable dans le retard de l'interdiction de ce matériau en France, explique un rapport du Sénat de 2005, alors que l'évolution des connaissances scientifiques exposées à la Conférence internationale de Montréal en 1982 rend inexorable l'interdiction du minéral. Le CPA prône l'usage contrôlé de l'amiante, une doctrine selon laquelle, moyennant quelques précautions, on peut se servir sans risque de ce produit. L'amiante ne sera donc interdit en France qu'en 1997, très tardivement par rapport aux autres pays européens. Merci d'écouter France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Alors vous venez aujourd'hui avec une question, 20 ans après la guerre du Kosovo, à qui profite l'indépendance?
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, vous l'entendiez hier, c'était il y a 10 ans l'indépendance, il y a 20 ans la guerre et aujourd'hui peut-être une normalisation internationale. Bonjour Jean-Arnaud Derrins.
Bonjour.
Rédacteur en chef du Courrier des Balkans, merci d'être au téléphone avec nous, entre Pristina et Belgrade. Je le disais, une guerre, 13 000 morts, des tueries, une guerre intense non réglée avec la Serbie dont le Kosovo était une province. Mais si les tractations qui ont lieu en ce moment aboutissent, elles pourraient ouvrir la voie à une pleine reconnaissance du Kosovo dans le monde par la Russie, la Chine et d'abord la Serbie. Ensuite, pour les deux entités, elles pourraient aussi accélérer la procédure d'adhésion à l'Union européenne, ce qui permettrait, troisièmement en retour à l'Union, de tenir les délais du plan d'intégration de six pays des Balkans lancé le mois dernier en visant 2025, gagnant, gagnant, gagnant comme on dit. Alors y aura-t-il une reconnaissance pleine et entière contre une relance de l'adhésion? Pas si simple, apparemment la Serbie ne veut pas parler d'un marchandage territorial, la question du Nord à majorité serbe reste un point chaud et l'attitude de l'exécutif kosovar a fini récemment par irriter l'Union européenne et les États-Unis, un peu comme la Macédoine dont on parlait. Il s'oppose notamment à la validation d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre. S'agit-il d'une pression de trop sur un pays trop fragile? Jean-Arnaud de Reims, qu'est-ce que ça veut dire d'abord ce tribunal spécial? C'est une instance dont on sait qu'elle est située à La Haye. Les anciens combattants disent qu'il est dirigé contre l'Ucheka exclusivement, cette armée c'est de guérilla. On connaît son mandat exact?
Alors la chambre spécialisée, c'est comme cela qu'elle s'appelle pour le coup, est une conséquence du rapport rendu public en 2010 par le député suisse Dick Marty qui a mis au grand jour ce que beaucoup de gens savaient ou soupçonnaient depuis le départ, à savoir que le noyau dirigeant de l'Ucheka, notamment l'actuel président de la République Hashim Farachi, était directement lié dans une série de crimes commis durant la guerre. Alors le rapport de Dick Marty pointe notamment les kidnappings suivis de déportations en Albanie et d'assassinats de nombreux civils serbes. Il y a à peu près 500 civils serbes qui sont toujours portés disparus au Kosovo. Certains de ces civils auraient même pu, selon le rapport de Dick Marty, alimenter un trafic d'organes. La chambre spécialisée est placée sous l'autorité du système judiciaire du Kosovo, mais elle est délocalisée à La Haye, aux Pays-Bas, et elle sera composée exclusivement de juges et de procureurs internationaux. Elle doit juger ces crimes de guerre commis notamment contre des civils serbes ou également roms, mais aussi les assassinats politiques qui ont été commis contre des opposants albanais, concrètement contre des militants, des cadres de la Ligue démocratique du Kosovo, de Bregovina, assassinats qui ont été commis aussi bien durant la guerre qu'à l'issue de celle-ci dans les mois qui ont suivi, quand le Kosovo était placé sous protectorat international des Nations Unies.
Et alors justement, ce tribunal doit publier les premières inculpations dans quelques jours. Je crois qu'il y a eu deux fois le report du vote de validation au Parlement du Kosovo. Pourquoi est-ce que ça bloque autant? C'est cette fameuse république des commandants, comme on dit, les trois têtes du pays, président, premier ministre, président du Parlement, qui sont des anciens commandants de la guérilla.
Et qui pourraient tous les trois être inculpés. Voilà. Alors on ne sait pas, hein, pour être honnête, on ne sait pas exactement quand les inculpations viendront. On suppose qu'elles sont très prochaines, mais je pense qu'il faut rester prudent. On ne connaît pas non plus, bien sûr, la liste des gens qui pourraient être inculpés, mais a priori, ces inculpations pourraient frapper très haut au sommet de l'actuel État du Kosovo. Et c'est la majorité dirigée par Hashim Thaçi, par Kadri Veseli, le président du Parlement, par le Premier ministre Ramush Haradinaj, c'est cette majorité qui a essayé de bloquer encore autour de Noël l'entrée en fonction du tribunal. Et là, il y a eu effectivement de fortes pressions de l'Union européenne et des États-Unis pour permettre que la Cour fonctionne, pour empêcher le Parlement du Kosovo de bloquer son entrée en fonction.
Oui, c'est une situation assez tendue. D'ailleurs, ce Premier ministre Ramush Haradinaj, qui avait été arrêté en France, cette fois-ci à cause d'inculpations de la part de la Serbie. Alors, qu'est-ce qui pourrait apporter ce tribunal aujourd'hui? Une crédibilité internationale supplémentaire? Une pacification du pays? Ou au contraire, l'explosion complète, là? Parce qu'on voit qu'il y a quand même une situation très compliquée.
Oui, écoutez, je crois que pour le coup, il y a des enquêtes d'opinion très convergentes qui montrent que la grande majorité des citoyens du Kosovo soutiennent le tribunal. Bien évidemment, il y a les anciens combattants, il y a quelques cercles nationalistes, il y a l'entourage des potentiels inculpés, mais l'immense majorité de la population a envie, pour le coup, que le Kosovo parvienne à tirer au clair ces terribles histoires issues du temps de la guerre. Alors bien évidemment, ce sera compliqué parce que l'enjeu, c'est finalement de reconnaître que le Kosovo a à la fois été soumis au régime de Belgrade, a connu une lutte de libération, mais que les combattants de la guérilla ont eux aussi commis des crimes. C'est donc le narratif, si vous voulez, de la guerre qui sera certainement au moins en partie à réécrire, mais je crois qu'aujourd'hui, la société du Kosovo est certainement prête à cela. J'ai envie de dire que la société est peut-être mieux prête à cela que la classe politique.
À partir de là, alors il y a deux questions. Est-ce que ce tribunal pourra œuvrer réellement avec le personnel politique en place? Quel en sera le prix intérieur? Et puis, est-ce que ça pourrait être effectivement la porte d'une normalisation? Et dans quelle mesure ça donnerait un appui supplémentaire pour une reconnaissance, et notamment vis-à-vis de la Serbie?
Alors, je pense que ce tribunal, s'il parvient à faire son travail, permettra effectivement à la société kosovare, je dirais, de régler les comptes avec elle-même, avec son passé. Ensuite, politiquement, il y aura bien évidemment des moments difficiles, des moments de tension. Après, je ne suis pas sûr que cela ait des conséquences directes dans les relations avec la Serbie. Pour être honnête, je ne suis même pas certain que la Serbie ait très très envie que le tribunal fonctionne, parce que si le tribunal fonctionne, c'est aussi un très vaste réseau de complicité qui va apparaître, qui risque d'être mis à jour, un réseau de complicité qui pourrait impliquer et les services secrets serbes et aussi certains services occidentaux. Donc les dossiers qui sont a priori dans les mains du tribunal sont des dossiers incontestablement très compliqué, mais je pense qu'il est temps que le Kosovo tourne la page.
Et alors précisément, Hashim Thaçi avait donné un grand entretien à l'AFP là début février, où il parlait de cette année 2018, où il voudrait un accord historique avec la Serbie. Là, il ne parlait pas forcément du tribunal, mais justement de la fortification, on va dire, et de du dessin des frontières extérieures, notamment dans cette situation dans le nord du Kosovo à majorité serbe, qui n'est toujours pas réglée. Est-ce que c'est pas ça le test à venir, plus que ce tribunal?
Je crois que le tribunal est vraiment essentiel. Ensuite, il y a un processus de dialogue qui est mené depuis 2011 à Bruxelles, sous l'égide de l'Union européenne, entre Belgrade et Pristina. Il y a des déclarations comme quoi, effectivement, les deux chefs d'État, Hashim Thaçi et son homologue serbe, Aleksandar Vučić, voudraient effectivement terminer ce travail prochainement. Je pense pour le coup qu'il faut être extrêmement prudent. On verra bien, je crois qu'il est difficile de faire trop d'hypothèses. L'idée d'une reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par la Serbie, à mon avis, n'est toujours pas à l'ordre du jour à court terme. Néanmoins, la Serbie, qui est beaucoup plus avancée que le Kosovo, pour le coup, dans la voie de l'intégration européenne, va arriver à cette question, puisqu'il semble difficile d'imaginer que la Serbie puisse intégrer l'Union européenne sans qu'on sache quelles sont les frontières du pays. Est-ce que oui ou non, la Serbie considère toujours que ses frontières incluent le Kosovo ?
Oui, sachant que pour l'instant, la constitution serbe écrit que effectivement le Kosovo est partie intégrante du territoire de la Serbie. Est-ce que dans les facteurs favorables, on pourrait dire, à une normalisation des relations globales entre Serbie et Kosovo, il n'y a pas ces deux acteurs dont vous venez de parler, Hashim Tashi et également Aleksandar Vučić, qui sont des anciens, tous les deux de la guerre, l'un propagandiste, l'autre plutôt militaire, mais qui sont aussi des hommes de pouvoir et rudement accrochés au pouvoir. Peut-être ils jouent leur avenir politique là-dessus, sur une normalisation.
Alors écoutez, je pense qu'Hashim Tashi d'abord devra, attend de voir si oui ou non il sera inculpé. Je pense que pour lui, la première échéance, c'est vraiment le tribunal. Dans le cas d'Aleksandar Vučić, le Kosovo, c'est c'est le meilleur argument rhétorique dont il dispose, puisque le régime d'Aleksandar Vučić est de plus en plus autoritaire, de plus en plus corrompu, de plus en plus autocratique, mais dans le même temps, cet Aleksandar Vučić jouit d'une complaisance un petit peu étonnante de la part des dirigeants européens, parce qu'il se montre prêt à des compromis sur le Kosovo. Donc, pour Vučić, le Kosovo est un excellent argument dans sa négociation permanente avec les internationaux et notamment avec les Européens. Mais néanmoins, si cette stratégie européenne qui envisage la possible adhésion de la Serbie en 2025 devait se concrétiser, il faudra bien un moment que la question soit tranchée.
Oui, donc ça pourrait être quand même un facteur d'accélération. Et dernière chose, du côté du Kosovo, on a vu ces deux derniers jours, juste après la déclaration d'indépendance, des déclarations assez étonnantes peut-être de Hashim Tashi, qui voulait d'un côté une armée kosovare multiethnique et qui de l'autre rencontrait le président albanais, l'Edi Rama. Tous les deux ont parlé, ou Edi Rama seulement, d'un président unique pour les deux pays.
Alors, la question de l'armée, tout d'abord, le Kosovo, effectivement, n'a pas d'armée. Il faut rappeler qu'il y a toujours 2 ou 3 milliers d'hommes de l'OTAN, de la mission KFOR, qui sont toujours présents dans le pays. Et lors de la proclamation d'indépendance, en 2008, il y a 10 ans, il n'était pas question que le Kosovo obtienne une armée. Donc, le Kosovo insiste sur ce point. On verra bien s'il obtiendra gain de cause ou pas. Sur l'autre aspect, celui des relations avec l'Albanie, c'est effectivement le Premier ministre albanais, Edi Rama, qui s'est rendu aux commémorations du 10e anniversaire et qui, dans son discours devant le Parlement dimanche dernier, a dit que dans 10 ans, le Kosovo et l'Albanie seraient unifiés, auraient un président commun. Cette question d'une éventuelle unification nationale entre le Kosovo et l'Albanie est une question qui est posée sur la table des Balkans depuis déjà un certain temps. Les deux gouvernements se sont rapprochés. Je pense que ça, c'est tout à fait positif qu'il y ait, dans toute une série de domaines, de l'économie jusqu'à l'éducation, une plus forte collaboration entre deux pays qui sont majoritairement peuplés d'Albanais, l'un comme l'autre. Après, la question d'une éventuelle unification politique entraînerait bien évidemment beaucoup de conséquences dans les Balkans, même si il est, je crois, difficile de dire qu'on l'exclut a priori. Si l'on considère que le Kosovo est un pays souverain, il peut décider a priori de se réunifier avec un autre État.
On va suivre ça. Merci en tout cas d'avoir été au téléphone. Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Et à 6h57 sur France Culture, on salue Guillaume Herner, bonjour.
Mais je vous salue aussi et je salue nos amis auditeurs.
L'humeur du matin, Guillaume Herner.
Un peu mou, mais vous allez rendre ça dynamique. Hein. Le test du marshmallow aurait donc un caractère prédictif.
Ça rebondit. Alors le test du marshmallow, il faut quand même rappeler ce qu'est ce test. Aussi simple que cruel, vous abandonnez un enfant, Xavier Martinet par exemple, avec un marshmallow et vous observez combien de temps il va tourner autour du marshmallow. Puis vous lui promettez 2 marshmallows s'il accepte de différer la consommation des 2 guimauves, voire 3 marshmallows s'il attend encore plus longtemps. Alors le but de ce test, vous l'avez compris, c'est de mesurer combien de temps un enfant est capable de différer un plaisir, en l'occurrence donc la consommation d'une friandise, en échange de quoi il recevra plus de gratification, autrement dit plus de friandise. Or, ce test du marshmallow nous apprend le monde serait prédictif de l'intelligence à la fois chez les enfants et chez les singes. Alors, on pourrait répondre que l'on ne sait pas très bien ce qu'est l'intelligence, alors que l'on voit très bien ce qu'est un marshmallow, mais en réalité le fait même de dire que l'intelligence et ce que mesure ce test est un aveu sur la nature, sur la représentation que notre société se fait de l'intelligence. Dire que le test du marshmallow mesure l'intelligence est une manière d'inciter à l'épargne, à la prudence, en somme à une attitude de mesure de pondération vis-à-vis de ses plaisirs. Une attitude somme toute aux antipodes d'un keynésianisme radical, puisque pour l'économiste John Maynard Keynes, jeter son argent par les fenêtres pouvait être une manière de suicider son patrimoine propre, mais de sauver le patrimoine collectif. Et c'est d'autant plus étonnant de lier marshmallow et intelligence que je ne connais pas un dirigeant qui aurait la moyenne au test du marshmallow. C'est un peu le règne du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Imagine-t-on par exemple Donald Trump différer son plaisir au-dessus du bol de marshmallow? Peut-on imaginer Laurent Wauquiez refusant le marshmallow alors qu'il se jette sur le premier micro venu? Ou bien imagine-t-on un président qui attendrait ses 40 ans pour devenir locataire de l'Élysée?
Merci Guillaume Werner.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Prévert fait son cinéma. Une rétrospective des films de Jacques Prévert.
J'en ai la claque, les hommes qui parlent d'amour. C'est vrai, ils en parlent tellement qu'ils oublient de le faire.
Redécouvrez les œuvres drôles, engagées, inattendues et toujours émouvantes de ce grand poète populaire et auteur de films.
Comment vous appelez-vous?
Moi, je ne m'appelle jamais. Je suis toujours là, j'ai pas besoin de m'appeler.
Le jour se lève, Les enfants du paradis ou encore Remorque. Réalisé entre 1934 et 2016, les 17 films intemporels de cette rétrospective sont à voir ou revoir mercredi 21 février au cinéma. Un événement France Culture.
Et puis une matinale spéciale marshmallow, puisque on va voir dans l'alimentation ce qu'il faut refuser, le sucre, ce qu'on appelle la processed food, autrement dit la nourriture industrielle, bref, tout ce qui est censé nous donner toutes sortes de maladies. On fera le point sur ce que l'on peut manger, sur ce que l'on doit manger et sur ce qu'il ne faut surtout pas manger en compagnie d'un économiste, Bruno Parmentier, d'une directrice de recherche à l'INSERM, Marie-Christine Boutron-Ruault. Il est 7h sur France Culture, excellent réveil à tous.